これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
Hey, venga.
Le gai savoir.
Une émission de Raphaël Antoven avec Paola Reymann.
À la lecture, Georges Kless.
À la réalisation, François Connac. La vie est courte, dit-on. Dépêchons-nous, dépêchons-nous. Mais d'aller où et pourquoi faire? Bonjour l'angoisse. Traînons des pieds alors, occupons-nous de nos vêtements, de nos cheveux, du peigne et du miroir. Mais à quoi bon? En vérité, la vie est courte pour ceux qui se dépêchent, comme pour ceux qui traînent des pieds. Que faire de l'intervalle qui sépare la naissance de la mort? La vie, dit Sénèque, n'a pas vraiment la longueur de nos années, mais la durée que notre sagesse lui donne. D'un vieillard que l'oubli recouvre, à la seconde où on l'ensevelit, on dira qu'il est mort prématurément. D'un jeune homme que l'éternité préserve alors qu'un accident l'a fauché, on dira peut-être qu'il a bien vécu. Car l'enjeu n'est pas toujours de vivre longtemps, mais de vivre l'instant.
La plupart des mortels se plaignent de l'avarice de la nature. Elle nous a fait naître, disent-ils, pour si peu de temps. Ce qu'elle nous donne d'espace est si vite, si rapidement parcouru. Enfin, sauf de bien rares exceptions, c'est alors qu'on s'apprête à vivre que la vie nous abandonne. Et sur ce prétendu malheur du genre humain, la multitude et le vulgaire ignorant n'ont pas été seuls à gémir. Même des hommes célèbres s'en sont affligés et n'ont pu retenir leurs plaintes. De là cette exclamation du prince de la médecine, « La vie est courte, l'art est long ». De là aussi, Aristote fait le procès à la nature et lui adresse ce reproche si peu digne d'un sage que, libéral pour les animaux seulement, elle leur accorde 5 et 10 siècles de vie, tandis que l'homme, né pour des choses si grandes et si multipliées, finit bien en deçà d'un si long terme. Non. La nature ne nous donne pas trop peu. C'est nous qui perdons beaucoup trop. Notre existence est assez longue et largement suffisante pour l'achèvement des œuvres les plus vastes si toutes ces heures étaient bien réparties. Mais quand elle s'est perdue dans les plaisirs ou la nonchalance, quand nul acte louable n'en signale l'emploi, dès lors, au moment suprême et inévitable, cette vie que nous n'avions pas vue marcher, nous la sentons passer sans retour. Encore une fois, l'existence est courte, non telle qu'on nous l'a mesurée, mais telle que nous l'avons faite. Nous ne sommes pas pauvres de jour, mais prodigues. De même qu'une ample et royale fortune, si elle échoit à un mauvais maître, est dissipée en un moment, au lieu qu'un avoir médiocre livré à un sage économe s'accroît par l'usage qu'il en fait, ainsi s'agrandit le champ de la vie par une distribution bien entendue.
Bonjour Raphaël.
Bonjour Paola.
Alors, dans ce texte, ce texte est très riche et puis on peut même jouer à faire un petit peu d'intertextualité, dirait la cagneuse que je suis.
Voilà.
Puisqu'on peut retrouver, par exemple, lorsqu'il cite ce prince de la médecine et qu'il dit « la vie est courte, l'art est long », on peut s'amuser à voir plein de choses. On peut voir Baudelaire et le Guignon dans « Les fleurs du mal ». Et on peut voir aussi Sallustre, non?
Alors, Sallustre, Baudelaire, mais également Hippocrate, le prince de la médecine. C'est Hippocrate.
Bien sûr.
Arlon, vitalité brève, occasion précipitée, expérimentation périlleuse, jugement difficile. C'est comme ça que le prince de la médecine qualifie son art. Ce qui fait de la médecine un art, d'ailleurs, et pas une science. Puisque c'est un art, c'est une jurisprudence, au fond. C'est un bon médecin s'adapte à son client, si vous voulez. À celui qui souffre, à la nature spécifique du mal. Disons que...
C'est l'art dans le sens d'Aristote.
Oui, c'est une technique. C'est une technique. C'est en ce sens-là qu'il faut l'entendre. Mais c'est une technique immanente, c'est-à-dire c'est une technique qui vient avec la fusion du mal, en ce qui concerne la médecine, la fusion du mal et de l'individu souffrant. C'est une position anti-positiviste, au fond. Le riche dira ce qui compte, ce qu'il y a de moins important, on en avait parlé, hein, dans la maladie, c'est l'homme. Eh bien non, là, ce qu'il y a de plus important dans la maladie, c'est l'homme, et c'est en cela, justement, qu'on est en présence d'un art. Et c'est l'homme, d'ailleurs, dont la vie est courte. Mais vous avez raison de mentionner Sallustre. Le début de la guerre de Jugurtha de Salluste reprend cette thématique, qui est en fait une thématique romaine, assez romaine, en définitive. Le début de la guerre de Jugurtha, c'est « L'homme a tort de se plaindre de sa nature sous prétexte que, faible et très limitée dans sa durée, elle est régie par le hasard plutôt que par la vertu. Au contraire, en réfléchissant bien, on ne saurait trouver rien de plus grand, de plus éminent, et on reconnaîtrait que ce qui manque à la nature humaine, c'est bien plutôt l'activité que la force ou le temps. » La vie de l'homme est guidée et dominée par l'âme. Que l'on marche à la gloire par le chemin de la vertu et l'on aura assez de force, de pouvoir, de réputation, on n'aura pas besoin de la fortune qui ne peut ni donner ni enlever à personne la probité, l'activité et les autres vertus. Si, au contraire, séduit par les mauvais désirs, on se laisse aller à l'inertie et aux passions charnelles, on s'abandonne quelques instants à ces pernicieuses pratiques, puis on laisse se dissiper dans l'apathie ses forces, son temps, son esprit. Alors, on s'en prend à la faiblesse de sa nature et on attribue aux circonstances les fautes dont on est soi-même coupable. Salluste et Sénèque disent ici rigoureusement la même chose. Et l'un et l'autre, je dois dire, de manière fort simple. Et c'est encore plus frappant pour Sénèque. Et c'est, je vous propose qu'on commence par cette idée-là, cet effet produit par la lecture de Sénèque. Peut-être tous nos auditeurs n'ont-ils pas lu Sénèque. Mais une chose est certaine, c'est que tous gagneraient à le faire. Non pas parce qu'ils sont plus faibles que les autres et qu'ils auraient plus que les autres besoin d'une grande leçon de stoïcisme, mais parce que Sénèque fait vraiment partie de ces philosophes qui ne conçoivent pas de ne pas être pleinement intelligibles. Ce qui complique le commentaire d'ailleurs. Le commentaire d'un texte se glisse dans les interstices, dans les équivoques, dans les interstices d'un texte. Commenter un texte, c'est aussi le lire entre les lignes. Là, en un sens, tout est sur place, tout est là, tout est évident, tout est simple. Et Sénèque est de cette espèce-là. Il est simple. Ce qu'il dit est simple et donc, à cet égard, terriblement difficile à entendre.
Il y a tout de même quelque chose qui me frappe, c'est une conception du temps presque spatiale. On dirait presque que Sénèque parle en architecte de son organisation du temps.
De même qu'une ample et royale fortune, si elle échoit à un mauvais maître, est dissipée en un moment, au lieu qu'un avoir médiocre livré à un sage économe s'accroît par l'usage qu'il en fait, ainsi s'agrandit le champ de la vie par une distribution bien entendue. Voulez-vous faire une expérience stoïcienne, remplacer votre vieux philofax par un agenda électronique, par exemple, et vous verrez immédiatement le temps se dilater. Parce que vous serez mieux organisé, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Vous serez mieux organisé, vous vous y retrouverez. Et vous aurez surtout la possibilité extraordinaire que la technique offre aujourd'hui d'avoir une vue synoptique de votre emploi du temps. Vous pourrez voir toute la semaine ou tout le mois, voire toute l'année en un clin d'œil. Et là, pour le coup, la technique est une vraie valeur ajoutée en termes de gestion du temps, d'ordonnancement du temps. Vous avez comme ça un personnage très intéressant dans le cinéma, c'est le personnage de Wolf dans Pulp Fiction. Mm-hmm. Vous vous souvenez ?
Oui, bien sûr.
Vous vous souvenez qui le joue ? C'est Harvey Keitel.
Ah.
Alors c'est étonnant ce personnage. Tiens, d'ailleurs, on va entendre son arrivée. Écoutez-le.
You're Jimmy, right? This is your house?
Sure is.
I'm Winston Wolf. I solve problems.
Good, we got one.
So I heard. May I come in?
Yeah, please do.
Okay. First thing, you two. Take the body, stick it in the trunk. Now, Jimmy, this looks to be a pretty domesticated house. That would lead me to believe that in the garage, you're under the sink, you got a bunch of cleansers and shit like that.
Yeah, Mr. Wolf, under the sink.
Good. Okay. I need you two fellas to do is take those cleaning products and clean the inside of the car. I'm talking fast, fast, fast. You need to go in the back seat, scoop up all those little pieces of brain and skull. Get it out of there. Wipe down the upholstery. Now, when it comes to upholstery, it don't need to be spick and span. You don't need to eat off it. Just give it a good once-over. What you need to take care of are the really messy parts. The pools of blood that I've collected, you gotta soak that shit up.
Dans Pulp Fiction, souvenez-vous, Paola, Samuel Jackson et Travolta, qui sont les bras armés de Marcellus Wallace, vont exécuter des types qui ont voulu arnaquer leur patron. Bon. Et puis, ils ont un indique dans le tas des gens qu'ils doivent exécuter. Alors évidemment, ils épargnent l'indique et ils l'emmènent avec eux dans la voiture. Et Travolta, à un moment, fait un faux mouvement et explose la tête du type d'un coup de revolver. Voilà, il le tue. Bon. Et du coup, la voiture baigne dans le sang. C'est un extrait à la fois drôle et terrifiant. Et ils sont obligés donc de déposer la voiture chez un copain qui est joué par Tarantino lui-même. Samuel Jackson, qui conduit la voiture, conduit cette voiture qui est devenue rouge vif, l'emmène chez un copain et ils ne savent pas quoi faire. Ils sont là, ils ont leurs costumes, sont pleins de cervelle, la voiture est rouge vif, il faut faire disparaître les preuves, en plus ça fait un témoin de plus avec le copain en question, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Bref, ils appellent Marcellus Wallace. Que fait Marcellus Wallace? Il envoie Wolf, le type dont le métier c'est de résoudre les problèmes. Or, que fait-il, Wolf? Mais il n'a que du bon sens. Il dit, on va commencer par laver la voiture. Puis ensuite, on va brûler vos vêtements. Vous allez mettre des t-shirts de plage. Et puis, quant au témoin, votre ami, que vous rendez témoin de tout cela, on ne va pas l'abattre, on va au contraire le corrompre. On va lui acheter un ensemble literie, etc., en bois de chêne. Bref, on va faire ce qu'il faut pour arranger les choses. Il y a quelque chose dans cet ordonnancement du réel, par ce sauveur d'assassins, si vous voulez, dans Pulp Fiction, a quelque chose d'assez stoïcien dans le calme qu'il conserve et dans l'extrême maîtrise du temps. Tiens, d'ailleurs, il dit « je serai là dans moins de 10 minutes » et il y a une petite horloge invisible qui apparaît, enfin, à peine visible, qui apparaît à ce moment-là où on voit 9 minutes 57 secondes plus tard arrive la voiture de Wolf. Il est précis, il est ordonné. Et au fond, Sénèque ne donne pas ici un autre conseil, mais... il y a malgré tout une valeur ajoutée à tout cela. C'est l'idée que la nature, comme le dit Sénèque, ne nous donne pas trop peu. C'est nous qui perdons beaucoup trop. Le problème n'est pas la parcimonie de la nature. Le problème, c'est notre prodigalité. Et je ne sais pas pour vous, mais quand on songe à tout le temps qu'on perd dans la vie, tout le temps qu'on perd, soit à vouloir oublier que le temps passe, à vouloir nous distraire, soit à travailler pour des choses qui n'aboutissent pas, à préparer un concours qu'on n'a pas forcément, par exemple. Bref, quand on pense à tout le temps perdu dans l'existence, on s'aperçoit que on est vraiment extraordinairement désinvolte avec l'intervalle de vie dont on dispose. Vous-même, comme moi, nous pouvons tous en témoigner.
Mais est-ce que ce n'est pas un constat forcément rétroactif ou rétrospectif plutôt? Enfin, c'est difficile, c'est pas quelque chose dont on peut se rendre compte vraiment. Enfin, il suffit pas d'avoir lu Sénèque pour mettre en place un emploi du temps qui serait parfait dans le bon usage du temps qu'on a.
Vous avez raison. De façon générale, il ne suffit pas de lire Sénèque. Lire Sénèque n'a d'utilité pour nous, puisque... souvent d'ailleurs, on dit à quoi sert la philosophie. La philosophie ne sert à rien. C'est une question myope et narcissique de considérer, de demander à quoi sert la philosophie. On évalue la qualité d'une philosophie à son utilité pour moi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il faut arrêter de poser cette question. Mais bon, il est vrai que, une fois que j'ai dit ça, il faut bien admettre que s'il y a bien une famille de philosophes qui prend cette question à bras-le-corps, ce sont les stoïciens, qui ne conçoivent pas l'exercice de la philosophie autrement que recyclé dans une utilité concrète. Soyons stoïciens, c'est-à-dire faisons comme si la philosophie était utile. Lire Sénèque n'a une fonction, une vertu, une efficacité que si on est déjà d'accord avec lui. On est ému par Sénèque. Et de façon générale, on est ému par les philosophes, non pas quand ils nous apprennent quelque chose que nous ignorons, encore une fois, mais quand ils nous mettent sous les yeux quelque chose que nous savons et que d'ailleurs, en général, pour cette raison même, nous ne voulons pas savoir. L'idée, par exemple, que ça n'est pas la vie qui est courte, mais nous qui sommes dispendieux avec elle, cette inversion-là, qui est une déclinaison de la seule intuition originale des stoïciens, à savoir que la liberté commence à l'instant où l'on ne dépend pas de ce qui ne dépend pas de soi, à savoir que on commence à être libre quand on renonce à agir sur ce qui ne dépend pas de soi, tout en admettant cela, Sénèque en vient à dire... que notre non pas la longueur objective, non pas la quantité encore que de vie dont nous disposons dépend de nous, mais la qualité de vie dont nous disposons dépend de nous. La durée au sens bergsonien, c'est-à-dire non pas le temps des horloges, mais la façon de vivre, la qualité de notre existence, elle dépend de nous. Et il y a ici, de la part de Sénèque, une valeur ajoutée qui ne pourra que stupéfier celui qui refuse d'admettre qu'il passe son temps, au fond, dans l'oubli du temps. Celui qui, si on met bout à bout tous les jours que l'on a passés sans y penser, si l'on met bout à bout tous les jours où nous avons pleinement joué notre rôle d'atome du corps social, de 15 milliardième du corps social, qui viendrait s'intégrer à un ensemble, qui joue son rôle d'atome digéré par les enzymes du métro ou du quotidien, si vous voulez.
La difficulté, justement, de se décrocher de cette matière. Enfin, moi, j'ai toujours eu l'impression que les stoïciens... enfin, je trouve ça très difficile à appliquer. Enfin, une fois que c'est lu, digéré...
Quand c'est digéré, c'est pas si difficile. En fait, c'est un problème quand c'est normatif. C'est-à-dire, c'est un problème quand on vous dit « Mais arrêtez de perdre votre temps, ressaisissez-vous, etc. » Ça, c'est une grande tension propre aux stoïciens. Pour le dire très simplement, le stoïcisme oscille entre deux tendances qui sont contradictoires. Je n'ai jamais trouvé un spécialiste des stoïciens pour contredire ou pour régler ou résoudre une telle contradiction. Ces deux tendances sont d'un côté une sorte d'abandon de soi, un abandon de soi aux éléments qui nous composent, qui nous constituent, un abandon pneumatique, un abandon au grand souffle, au pneuma, dont nous sommes faits. Il y a une intuition presque spinoziste avant l'heure chez les stoïciens, d'un oubli de soi qu'on retrouve chez Sénèque dans la façon qu'il a de parler du présent et de se distinguer d'ailleurs de l'épicurisme. Et il y a aussi chez les stoïciens une tendance à la reconquête de la souveraineté de l'individu, qu'on retrouve notamment dans l'éloge du suicide, qui est tout à fait contradictoire. Les stoïciens tiennent le suicide, en particulier Sénèque d'ailleurs, qui s'est suicidé, pour une maîtrise de soi, un exercice de maîtrise. Or, le suicide, si on est spinoziste par exemple, le suicide n'est qu'une façon de subir encore davantage la nécessité qui s'impose à nous. C'est précisément le moment où l'on n'est pas maître de soi.
Mais il me semble que...
Juste pardonnez-moi, pour finir ça, parce que c'est important, ces deux tendances chez les stoïciens culminent dans le double utilisation qu'on peut en faire. D'un côté, côté abandon, versant oubli de soi, si vous voulez, ce versant-là, quand on l'explore, quand on l'examine dans la pensée stoïcienne, ouvre sur la possibilité d'une incorporation de la sagesse, d'une sagesse incorporée, d'une sagesse vécue, c'est-à-dire d'une sagesse acquise de l'intérieur. Le versant de la souveraineté débouche sur une tendance à la normativité chez les stoïciens. Par exemple, Sénèque explique qu'il y a certaines façons de faire l'amour qui sont totalement impossibles, interdites. Il est interdit, par exemple, aux yeux de Sénèque, à la femme de chevaucher l'homme. Allez savoir pourquoi. Le cunnilingus est une infamie aux yeux de Sénèque. Ce sont des détails comme ça. Il se soucie de ce genre de normes, si vous voulez. Donc, et c'est là qu'ils sont plus difficiles à suivre. De façon générale, quand on vous dit ce qu'il faut faire... On rame pour y arriver. Quand on en fait une question de volonté, c'est plus compliqué. Quand c'est un abandon, quand c'est une question de désir, quand c'est une réforme de l'entendement ou une réforme de la nature de notre désir, là, c'est davantage possible. Il y a vraiment deux utilisations possibles du stoïcisme.
D'accord.
Et une qui marche. Pardon. Voilà.
Oui, j'allais juste revenir, mais après tout, maintenant, je mélange mes cours de latin et je ne suis plus sûre de rien. Mais il me semblait
c'est un bon début, ça.
Il me semblait que chez Sénèque, il y avait une ambivalence du suicide. Il lui arrive de critiquer le suicide plusieurs fois dans la conception qu'ont les gens de la mort. À un moment, je pense, qui se moque d'un amant qui se suicide. C'est à vérifier, je ne m'en souviens plus.
Il faudrait, pour vous répondre correctement, Paola, que j'ai sous les yeux, ce qui n'est pas le cas là, le texte du suicide de Sénèque, par Tacite.
Je ne veux pas y aller, je n'irai pas. Je refuse d'entrer dans ce boyau, ça pue. Oui, je sais, tous avant moi et tous après, et alors ? Mais ils me disent, toi, le philosophe, toi qui nous as éclairés ? Quoi, moi ? Moi, j'étais précepteur de cet empereur véreux. J'ai écrit, tellement, et ils osent me répéter comme si cela me flattait, cette trace te fera éternelle. Arrêtez, je ne veux pas. Je vous rends l'éternité, mais laissez-moi vivre encore un peu. Et ta sagesse ? Tu sais bien, tu es le sage. Celui qui donne un sens aux choses, c'est bien toi. Oui, c'était moi.
C'est un texte dans lequel on découvre un homme contraint au suicide par Néron, qui ne lui laisse absolument pas le choix, et qui essaye, dans la façon même de mettre fin à ses jours, et dans le fait qu'il accepte que sa femme le suive dans sa mort, façon Stefan Zweig, c'est un homme qui essaye à cet instant-là de reconquérir une vraie maîtrise. Et c'est tout le paradoxe. Y arrive-t-il ou n'y arrive-t-il pas ? Je renvoie pour cela nos auditeurs à ce texte.
Et il me semble aussi que sa femme est sauvée, finalement.
Encore une fois, l'existence est courte, non telle qu'on nous l'a mesurée, mais telle que nous l'avons faite. Nous ne sommes pas pauvres de jour, mais prodigues.
Et cette critique de la prodigalité chez Sénèque débouche sur une critique de l'agitation qui revient très souvent chez Sénèque dans les lettres à Lucilius, et là, dans La brièveté de la vie.
Oui, dans les lettres à Lucilius, critique des voyages, critique de l'agitation.
Des lectures aussi, c'est étonnant.
Oui.
Il dit à Lucilius qu'il vaut mieux lire un auteur et le relire et l'avoir bien en tête que de s'éparpiller en lecture.
En vérité, ce qu'il critique, c'est le divertissement. Très exactement le divertissement. C'est le texte que nous avons sous les yeux.
L'un est possédé par l'insatiable avarice. L'autre s'applique péniblement à d'inutiles labeurs. Un autre est plongé dans l'ivresse ou croupit dans l'inaction, ou s'épuise en intrigue, toujours à la merci des suffrages d'autrui, ou, poussé par l'aveugle amour du négoce, court dans l'espoir du gain sur toutes les terres, sur toutes les mers. Dévorés de la passion des armes, certains hommes ne rêvent que péril pour l'ennemi ou tremblent pour eux-mêmes. Ceux-ci, pour faire au grand une cour sans profit, se consument dans une servitude volontaire. Ceux-là, sans nul relâche, ambitionnent la fortune d'autrui ou maudissent la leur. Le plus grand nombre, sans but déterminé, sont les jouets d'un esprit mobile, irrésolu, mécontent de soi, qui les promène de projet en projet. Quelques-uns ne trouvent rien qui leur plaise et où ils doivent diriger leurs pas. Engourdis et bâillants, la mort vient les surprendre. Tant cette sentence, échappée comme un oracle de la bouche d'un grand poète, est à mon sens incontestable, de notre vie, hélas, la plus grande partie est celle où nous vivons le moins.
Le génie d'une critique du divertissement, qui vraiment rappelle avant l'heure ce que Pascal pourra en dire, c'est que on peut comprendre en lisant ça, en écoutant ce texte, que la brièveté de l'existence, qui est un lieu commun, et qui en général est présentée comme une leçon de sagesse, sache que la vie est courte. On présente ça comme une leçon de sagesse. Sénèque fait de cette information une illusion, et non pas une leçon de sagesse. Car la brièveté de l'existence est une illusion. Mais c'est une illusion que si, paradoxalement, nous en prenons acte. Pour le dire très simplement, c'est en sachant combien la vie est courte. Et par conséquent, en ne passant pas notre vie à essayer d'oublier qu'elle passe à toute vitesse, qu'on parvient à l'accroître ou à l'étendre démesurément. De la même manière, c'est un modèle qu'on retrouve en art. Qu'est-ce qu'un artiste ? C'est celui qui, parce qu'il se sait mortel, parvient à ne pas mourir avec le sentiment de n'avoir pas encore commencé à vivre. C'est parce qu'il se sait mortel qu'il fait de sa mortalité sa plus grande chance. C'est ce savoir mortel impose de donner au petit intervalle dont nous disposons l'occasion de donner le jour à ce qui ne meurt pas avec soi. Comment aurait-on l'idée de donner le jour à ce qui ne meurt pas avec soi si nous n'avions pas la conscience de notre mortalité ? De sorte que la critique du divertissement, qui est très drôle chez Sénèque, qui est très bien écrite, cette critique du divertissement porte en creux l'idée que ceux qui se plaignent de la brièveté de la vie sont ceux qui passent leur vie à vouloir conjurer l'hypothèse de son terme ou la certitude de son terme. Et au fond, tout le prix de l'existence et l'extension de l'existence vient du constat de sa brièveté. La déploration de la brièveté de l'existence vient du déni de notre mortalité. D'ailleurs, c'est si vrai qu'il y a des tas de gens qui, déplorant que la vie soit courte ou déplorant que la vie soit tout simplement provisoire, dès qu'elle est provisoire, elle est courte, se suicident. C'est-à-dire, c'est ceux qui se tuent par peur de mourir. Et c'est peut-être de ces suicidés-là que Sénèque pourrait faire la critique. Mais là, je vous avoue que j'en sais rien. Mais pourquoi pas ? Voyez, ce que je veux vous dire ici, c'est que il ne s'agit pas seulement, je vous ai parlé tout à l'heure d'agenda électronique, il ne s'agit pas seulement d'organiser notre temps. Ça va plus loin que ça. La longueur de la vie n'est pas seulement une question d'agenda, même si ça peut aider. Il s'agit de ne pas perdre de temps. Et ne pas perdre de temps ne signifie pas qu'il faut vivre à toute vitesse. Ne pas perdre de temps signifie que la brièveté de la vie est telle qu'il ne faut pas se dépêcher. On n'a pas le temps de se dépêcher. Celui qui se dépêche raccourcit objectivement la durée de sa vie car il s'épuise. Celui qui se dépêche fait au fond comme s'il avait tout son temps. Il y a chez Sénèque d'ailleurs une critique de l'épicurisme et de l'hédonisme anxieux, celui qui se propose de vivre chaque instant comme si c'était le dernier. La vie n'est brève pour Sénèque qu'aux yeux de celui qui perd son temps à vouloir en augmenter la durée. En fait, au fond, pour que la vie soit longue, il faut ne pas vivre comme si nous ne devions jamais mourir. Seuls ceux qui vivent comme s'ils ne devaient jamais mourir trouvent la vie trop courte.
D'ailleurs, c'est à Sénèque et pas à Montaigne qu'on doit la phrase, je ne l'ai plus exactement en tête, mais qu'il faut attendre la mort partout.
Oui, tout à fait. C'est dans le troisième livre. C'est la lettre 26 du troisième livre, la lettre 26 à Lucilius, dans le troisième livre. Ce que je me dis, prends-le comme si je le disais à toi-même. Tu es plus jeune, qu'importe. La mort ne compte pas les années. Tu ne sais où elle t'attend. Attends-la donc en tout lieu. Nous ne savons où est la mort. Attendons-la partout. C'est Montaigne qui l'a dit. Il a juste enlevé les guillemets.
D'ailleurs, ce qui est rare chez Montaigne quand même.
Non, c'est pas si rare que ça. Oh. Mais non, Montaigne dissimule des tas d'emprunts où il enlève les guillemets par une abondance de citations. Et tout. C'est pas rare, il y a des tas de moments. Regardez, la même lettre, hein. Toujours la lettre 26 à Lucilius. « Exerce-toi à mourir, c'est me dire, dit Sénèque, exerce-toi à être libre. » Non, qui a appris à mourir a désappris à servir. Ça, c'est en termes montagnens, ça donne ça. Montaigne dit « Qui a appris à mourir a désappris à servir. Exerce-toi à mourir, dit Sénèque, c'est me dire, exerce-toi à être libre. » Enfin, d'abord, c'est la même tradition. Et puis, c'est le Montaigne stoïcien qui écrit son chapitre sur la mort. Le grand chapitre, le 20e chapitre du livre 1 des Essais. En revanche, ce qui est intéressant ici, puisqu'on parle de ce sujet-là et de cette lettre à Lucilius, c'est le fait qu'il est possible pour Sénèque de s'exercer à mourir, même si ça n'arrive qu'une fois. Et d'ailleurs, Sénèque se dit, mais à quoi ça sert de travailler toute la vie à un truc qui n'arrive qu'une fois? Oui, mais comme ça arrive pour toujours, il faut mieux être au point le jour où ça nous arrive. Et s'exercer à mourir, ça prend chez Socrate la forme d'un détachement de l'esprit à l'endroit du corps, d'une aptitude à voir les choses séparément des illusions de nos sens. Bon, c'est une façon de s'entraîner à mourir de son vivant, puisque la mort parachève un tel mouvement en détachant l'esprit du corps. Chez les stoïciens, s'entraîner à mourir, ça prend la forme d'une aptitude tout à fait particulière, très intéressante, thématisée d'ailleurs dans le film Heat, dans un dialogue entre Robert De Niro et Al Pacino, qui est la possibilité d'abandonner en une seconde ce à quoi on tient le plus. S'exercer à mourir, c'est s'exercer à laisser de côté, à abandonner en une seconde, en un clin d'œil, ce à quoi on tient le plus. Or, c'est le grand enseignement de Robert De Niro à Al Pacino. Il lui explique ça. Al Pacino est un super flic, De Niro est un super truand, en vérité, ce sont les mêmes. Et De Niro lui explique que, au fond, sa grande science, je ne sais plus si c'est à Al Pacino ou à la femme qu'il aime, mais que toute sa force vient de son aptitude à tout abandonner en un instant, sans se retourner. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il finit par faire alors qu'il est amoureux d'une femme. Il l'abandonne en un instant, pour ne pas la compromettre, pour lui sauver la vie, mais il l'abandonne en un instant, immédiatement. Et c'est cette aptitude-là qui, à mon avis, en termes stoïciens, détermine, désigne plus précisément l'entraînement à mourir dans le temps de la vie. C'est beaucoup plus intéressant que de se divertir, d'ailleurs.
Immigrated to Appalachia in the late 1700s. Where are you from?
The Bay Area.
Your folks there?
Well, my mother died a long time ago. My father, I don't know where he is. Got a brother somewhere.
Oui, mais c'est une aptitude très cruelle, enfin... Heureusement qu'on ne la maîtrise pas tous, à vrai dire.
Oui, c'est cruel, mais que voulez-vous, Paola, pardon d'un tel truisme, la vie est cruelle, et la cruauté de cette aptitude. Il y a paradoxalement, par exemple, dans le passage de De Niro qu'on a entendu, il y a moins de cruauté dans l'aptitude qu'a cet homme à abandonner sa femme, à tout quitter en un instant, à tourner le dos à la vie en un instant, il y a moins de cruauté que dans la figure du type qui...
Du
vieillard qui s'arc-boute sur ce qu'il a fait, qui brandit ses médailles, qui montre ses diplômes, qui dit « Mais regardez, comment pourrais-je mourir après tout ce que j'ai fait, après tous mes premiers prix d'excellence ?» Vous voyez, par exemple, il y a quelque chose de romain quand Raymond Aron dit « Je ferai mon salut laïque au moment de mourir. Ce que j'ai fait jusqu'ici n'a aucune valeur. J'ai juste voulu être le premier. J'ai juste voulu être le premier de ma classe. J'étais paralysé par la peur de me tromper. J'ai juste voulu être le premier de ma classe. C'est la raison pour laquelle Sartre aura une existence posthume bien plus vaste que la mienne. » Aron avait la sagesse de reconnaître ça, l'élégance de reconnaître ça, précisément parce qu'il n'avait pas d'imagination et que voilà, il était privé en un sens, de cette capacité d'abandon, de cette capacité de lâcher prise, au fond, qui fonde une partie du stoïcisme, et peut-être le plus intéressant, la plus intéressante. Mais voyez, celui qui est capable de tout abandonner, il est moins cruel que l'homme de divertissement. Voyez le texte, par exemple.
« Appelles-tu homme de loisir ceux qui passent tant d'heures chez le barbier à se faire enlever le moindre poil qui aura commencé à poindre pendant la nuit ? À tenir conseil sur chaque cheveu, à rétablir une mèche déplacée ou à ramener de ci, de là, leur chevelure sur un front dégarni ? Quelle indignation si le barbier a omis quelques minces détails, oubliant que ce n'est pas un homme qu'il rase ? Quelle fureur si le rasoir a entamé leur crinière, si rien dépasse la ligne ordonnée, si chaque mèche ne retombe pas toute dans son anneau spécial ? Est-il un de ces êtres qui n'aime à mieux voir bouleverser l'état que sa chevelure, qui n'ait plus grand souci de l'ajustement de sa tête que de ce qui peut la sauver, qui ne choisisse d'être un homme bien coiffé plutôt qu'un honnête homme ?
C'est une belle critique de l'égoïsme.
Mais oui, et quand le personnage incarné par De Niro abandonne sa femme en un instant pour la protéger elle-même, il est certes cruel et c'est terrible pour elle, mais il est moins cruel que celui qui préfère voir bouleverser l'état plutôt que sa chevelure. Il n'est pas dans l'égoïsme, justement. Et ça, c'est une des leçons du stoïcisme, d'ailleurs. C'est que, pourquoi sommes-nous tous égoïstes ? Parce que l'égoïsme est un combat perdu d'avance. Je veux dire, on peut se protéger, se prémunir, se carapater, se caparaçonner, se recouvrir, se mettre des gilets pare-balles, se recouvrir d'argent, on peut tout faire. Ça ne change rien. On ne va pas mourir riche. Vous êtes riche, bon, mais vous ne mourrez pas riche. Vous êtes protégé, mais ça ne vous empêchera pas de mourir du mal intérieur qui finira par vous ronger, etc., etc. C'est-à-dire que toute protection, toute préservation, toute sanctification du petit moi est une illusion, et l'illusion de celui dont le combat est perdu d'avance. C'est l'égoïsme. C'est aussi la raison pour laquelle l'égoïsme est tout-puissant. Nous n'en avons jamais fini avec l'égoïsme. Car l'égoïsme, pourquoi l'égoïsme est-il toujours gigantesque ? C'est le pied qui vous masque la lune, l'égoïsme. C'est ça. C'est perdu d'avance. Ça n'a pas de sens. C'est dérisoire. C'est pathétique. Mais ce pathétique de l'égoïsme vient du fait que l'homme égoïste, c'est celui qui veut conjurer de toutes ses forces le sentiment de mourir, la certitude de mourir. Et cela culmine dans le divertissement. Or, c'est exactement ce que Sénèque combat. Il s'agit, pour Sénèque, de combattre ça. De combattre cette tendance, qui est en fait une lâcheté, une démission, à l'égoïsme, qui culmine soit dans la quête du bonheur, soit dans le pessimisme. Il n'y a rien de plus égoïste qu'un pessimiste. Qu'est-ce qu'un pessimiste ? Qu'est-ce que c'est qu'un pessimiste ? Paola ?
Et c'est, en tout cas, le point commun avec l'égoïsme, je dirais que c'est un combat perdu d'avance, mais...
Oui, d'accord, mais qu'est-ce qu'il fait, le pessimiste ?
Il prévoit le pire.
Il prédit, ce qui n'est pas pareil. Prédire et prévoir le pire. D'abord, prédire le pire ou prévoir le pire, ce n'est pas une façon de devancer le pire, c'est une façon de l'éloigner de soi. Quand on prédit le pire, c'est un peu comme Madame Poussin dans La Recherche du Temps Perdu. Quand tu auras un bon panari, dit-elle à sa fille qui se met les doigts dans l'œil, tu m'en diras des nouvelles. C'est aussi une façon pour Madame Poussin de conjurer l'avènement du pire que de le prédire. Elle le prédit, elle le repousse. C'est pour demain. Elle parle du pire au futur. Le pessimiste, c'est celui qui parle du pire au futur. Donc, en prévoyant le pire, il se donne l'air de la lucidité et, en pratique, il éloigne un peu le pire en parlant au futur. Certes, le pire est certain, mais c'est demain. C'est comme il est certain que j'arrêterai de fumer, mais demain. Vous voyez ? Donc, il y a quelque chose de confortable là-dedans. Et puis, surtout, il y a un problème avec le pessimisme. C'est que, si le pire est toujours sûr, en toute rigueur, un pessimiste n'a aucune raison de se soucier de lui. Quand on ne cesse de savoir, ce qui est apparemment la grande leçon du pessimiste, que quoi qu'on fasse, on est fait. Et on va mourir. Pourquoi est-ce qu'on ferait attention à soi ? Or, les pessimistes font attention à eux. Les pessimistes ne s'oublient jamais. Parce que c'est précisément quand on se dit qu'on n'a plus rien à perdre, qu'on se préserve. Sous ces airs de prudence, le pessimisme, c'est une peur panique. C'est une réponse panique à la préscience du pire. Alors, le pessimiste a la sagesse de penser que prédire le pire, ou penser le pire, est une meilleure manière d'appréhender le pire. Et que c'est plus sage d'arriver vers le pire avec la conscience que le pire va arriver. Mais dans le même temps, la façon qu'il a de prédire le pire est une façon de lui rendre le pire indolore. Un peu à la manière des gens qui disent « tous les hommes sont mortels ». Donc je suis mortel. Oui, mais ça ne veut pas dire que je vais mourir.
Le fait de dire ça est une manière de s'exclure du lot. Il y a dans le pessimisme une sorte de confort. L'homme est à l'abri derrière, le pessimisme est à l'abri derrière la lucidité qu'il brandit, si vous voulez. Le pessimisme est bien au chaud. Rien de cela avec Sénèque. On est dans une pensée presque tragique avec Sénèque. On est au-delà du pessimisme ou de l'optimisme. On est dans un rapport au temps. Une pensée qui est tout entière dans un rapport au temps et dans une plus qu'une bonne gestion du temps, une incorporation du temps.
La vie se partage en trois époques. Celle qui est, celle qui fut, celle qui sera. Celle que nous traversons n'est bientôt plus. Ce qui est devant nous est incertain. Le passé seul est assuré. C'est là que la fortune a perdu ses droits. C'est là ce qui ne peut retomber à la discrétion de personne. Voilà ce que perdent les hommes stérilement occupés. Ils n'ont pas le loisir de tourner leur regard en arrière. Et, quand ils l'auraient, trop d'amertume s'attache aux souvenirs qui sont des remords. Ils reportent à regret leurs pensées sur une époque mal employée. Ils n'osent toucher à ces désordres dont l'immoralité se voilait sous la séduction du plaisir présent. La plaie se rouvrirait au contact. Il n'est que l'homme qui a, dans tous ses actes, suivi l'arrêt de sa conscience, laquelle ne se trompe jamais, il n'est que cet homme qui revienne avec charme vers le passé. Quand on s'est longtemps laissé aller aux rêves de l'ambition, aux dédains de l'orgueil, aux abus de la victoire, aux ruses de la déloyauté, aux exactions rapaces, aux prodigalités ruineuses, il faut bien que l'on tremble devant ses souvenirs. Le passé, cependant, est une portion de notre vie désormais sacrée, inviolable, hors de l'atteinte des événements humains. Soustraite à l'empire du sort, ni le besoin, ni la crainte, ni l'invasion des maladies ne peuvent la troubler. On ne saurait nous la contester ni nous la ravir. La jouissance en est aussi constante qu'inaltérable.
Sotto forma di feste sono il martirio, a principi infelici.
C'est un texte qui est apparemment sur le passé, mais qui semble en fait, c'est une critique de l'emploi du présent plus que.
Oui, on pourrait dire ça. Le passé seul est assuré, dit-il. Alors, effectivement, du point de vue de Sénèque, consiste à dire que le passé ne change plus. C'est un peu comme l'écriture pour Platon. C'est comme un texte écrit, si vous voulez. Un texte écrit, on lui pose une question, on peut lui poser des questions différentes. Il répond toujours de la même manière. Le passé est toujours le même. Or, de cela, Sénèque dit l'inutilité de vivre dans la réforme du passé. Déduit l'inutilité de vivre dans la réforme du passé. Or, combien de personnes se gâchent l'existence et perdent leur temps à vivre dans la déploration d'un temps déjà perdu ? Bon, on est en pleine sagesse stoïcienne. Mais que voulez-vous ? Je commence à penser que Sénèque n'avait pas lu Proust. Quand Albertine meurt, par exemple, on comprend bien dans la logique de Sénèque que le passé est inaltérable. Pour cause, il a eu lieu. Bon, ben voilà, il a eu lieu. Le passé, c'est ce qu'il est. Mais désolidariser à ce point le passé de la conscience qu'on en a, du caractère de celui qui l'envisage, de l'état présent de l'esprit de celui qui pense à son passé, ou qui revient sur son passé. Bref, faire comme si le passé, parce qu'il était passé, était séparable de nous, au fond, me semble une folie. Dans la recherche du temps perdu, donc, Albertine meurt. Et le narrateur, entreprise vaine s'il en est, enquête sur les mœurs d'une jeune fille qui n'est plus. Il envoie Aimé, le majordome, à Balbec pour enquêter sur les manières d'Albertine. C'est là qu'Aimé lui fait ce rapport très cruel où il lui raconte comment, avec une petite blanchisseuse, elles se mordaient l'une l'autre et Albertine lui disait en lui mordant les pieds « Tu me mets aux anges ». Donc il fait une enquête sur quelqu'un qui a disparu. Et entreprise folle, mais dans le même temps, que dit le narrateur ? Il dit ceci. Jadis, je songeais sans cesse à l'avenir incertain qui était déployé devant nous. J'essayais d'y lire. Et maintenant, ce qui était en avant de moi, comme un double de l'avenir, aussi préoccupant qu'un avenir puisqu'il était aussi incertain, aussi difficile à déchiffrer, aussi mystérieux, plus cruel encore parce que je n'avais pas, comme pour l'avenir, la possibilité ou l'illusion d'agir sur lui, et aussi parce qu'il se déroulerait aussi long que ma vie elle-même, sans que ma compagne fût là pour calmer les souffrances qu'il me causait, ce n'était plus l'avenir d'Albertine, c'était son passé. Le passé est une matière malléable, est une matière dont un narrateur dispose, dont celui qui s'y penche dispose et qu'il peut en un sens altérer, modifier au gré de son humeur, de son caractère ou de l'état de son deuil. Et ça, c'est une dimension du passé que Sénèque ne prend pas en compte là-dedans.
Puisque vous parliez de Proust, c'est aussi le cas à chaque fois avec les souvenirs involontaires qui permettent d'éclairer des moments du passé qui ont été vécus et qui nous... dont on peut les voir totalement différemment.
Oui, c'est-à-dire que la mémoire involontaire, vous avez raison, la mémoire involontaire ne nous emporte pas dans le passé. Quand le narrateur mange une petite madeleine, il ne se retrouve pas illico dans la chambre de la grabataire Tante Léonie. C'est pas ça. C'est qu'il retrouve la saveur qui était celle de la chambre de Tante Léonie. Mais il la retrouve au présent. Il la retrouve ici, là, maintenant, tout de suite. Et c'est en cela, d'ailleurs, que Sénèque aurait avantageusement dû faire l'effort de se plonger dans la recherche du temps perdu. Écoutez le texte où il parle du présent, tiens.
Il fuit en effet d'une fuite éternelle. Il coule et se précipite. Il a cessé d'être plus tôt qu'il n'est venu. Il est aussi peu stationnaire que les cieux ou les astres dont l'active et continuelle rotation ne les laisse jamais au même point de l'espace. Les hommes à préoccupation ne possèdent donc que le présent, si rapide qu'il est insaisissable, et les mille soins qui les partagent le leur dérobent encore. Enfin, veux-tu savoir combien peu de temps ils vivent ? Vois combien ils souhaitent vivre longtemps. Vieux et décrépits, ils mendient dans leurs prières un supplément de quelques années. Ils se rajeunissent à leurs propres yeux, se bercent de leurs mensongers et s'abusent avec autant de satisfaction que s'ils trompaient aussi le destin. Mais qu'ensuite leur santé chancelante les avertisse que l'heure est venue, avec quel effroi ils se voient mourir. Ils ne sortent pas de la vie, ils en sont arrachés. Ils se donnent hautement le nom d'insensés pour n'avoir pas pensé à vivre. Si seulement ils échappent à la maladie, comme ils sauront goûter le repos. Ils reconnaissent alors combien inutilement ils amassaient pour ne pas jouir et que tant d'efforts n'ont abouti à rien.
Ça me fait penser au texte de La Fontaine, enfin la fable de La Fontaine qu'on avait déjà pu citer au moment d'une émission sur la mort et Montaigne, de ce vieillard qui ne veut pas mourir parce qu'il a encore tant de choses à faire et qu'il saura, qu'il acceptera de mourir si on le laisse finir son testament et doter d'une maison son fils, etc.
Oui, mais on ajourne tout le temps le moment de mourir. C'est le paradoxe de la dernière minute, quand on réclame encore une minute, juste encore une minute, une dernière minute. Peu importe, c'est l'idée de n'en avoir pas assez, au fond. Les problèmes apparaissent à ce moment-là. Les problèmes apparaissent au moment où on n'aime pas assez la vie pour accepter qu'elle s'achève, au fond. Les problèmes commencent quand on n'est pas capable d'aimer la vie au point de tolérer son caractère provisoire. Il faut aimer la vie au point d'accepter qu'elle s'achève. Ceux qui ne veulent pas que la vie s'achève, contrairement à ce qu'ils pensent, n'aiment pas la vie, mais au contraire détestent sa valeur provisoire et lui demandent d'être autre qu'elle n'est, c'est-à-dire de ne pas s'achever, ou en tout cas pas tout de suite. Aimer la vie, c'est accepter qu'elle se termine. Et c'est ce qu'on appelle une philosophie tragique. Nietzsche est le maître à penser de cette façon de faire.
Camus
l'est peut-être plus encore que Nietzsche, tiens. Oui, Camus, je ne veux pas mentir, je ne veux pas qu'on me mente. Je veux regarder la mort avec toute la vérité de mon amertume. Je veux l'avoir sous les yeux. Je ne suis pas là pour tricher. Il n'est pas là à mendier un instant de plus. Ce n'est pas son problème. Puisque la qualité des instants qu'il met en œuvre quand il est précisément dans la conscience de sa mortalité, dans cet amour des vérités qui doivent pourrir, la conscience de sa mortalité, ce qu'il met en œuvre à cet instant-là relève de la vie vraiment vécue. Cet homme, au moment de mourir, s'est peut-être dit « j'ai vécu », si vous voulez, ou a pu se le dire. Il n'est pas mort avant d'avoir vécu. Voilà. Et il suffit, pour ne pas mourir avant d'avoir vécu, eh bien, tout simplement d'en venir un jour à aimer la vie au point d'accepter qu'elle s'achève. Et non pas au point de renier qu'elle s'achève. Car vraiment, hein, de celui qui refuse que la vie s'achève, ou de celui qui accepte que la vie s'achève, celui des deux qui aime le plus la vie n'est pas forcément celui qu'on croit. C'est l'une des leçons des stoïciens. Or, ne pas vouloir que la vie s'achève, c'est se divertir. Y a aussi un autre élément là-dedans. C'est la déconstruction du moi, pour le coup. La nature même du présent nous interdit d'être un moi. C'est le fait que nous soyons tissés de présent, cette fuite éternelle dont il parle, si simplement d'ailleurs, permet de comprendre pourquoi, en quoi, ce qu'on disait de l'égoïsme tout à l'heure, il n'y a aucun sens à s'en tenir au moi. Et en quoi, justement, une grande vie est une vie riche de ce qui nous échappe, à la manière dont le présent nous échappe. Il faudrait, pour se saisir soi-même, qu'il y ait deux lignes de temps parallèles. C'est le grand problème de Descartes. Descartes ne peut pas penser qu'il pense, il pense qu'il a pensé. Descartes dit « je pense que je pense ». Il se pense pensant. Mais non, il se pense ayant pensé, car il est lui-même pris dans le temps, à l'instant où il dit qu'il pense. Et Sénèque, montrant que le présent fuit d'une fuite éternelle, décrit à partir de là l'immense paradoxe de la condition humaine, qui est que... on défend jalousement nos propriétés, c'est-à-dire ce qu'on a en propre, ce qui appartient au moi, mais on se laisse envahir l'existence, manger l'existence, dévorer la vie par les mendiants quêteurs et colporteurs, si vous voulez, qui l'horripilaient. On se laisse ruiner l'existence alors qu'on est, extraordinairement défensif avec ce qu'on possède, et dispendieux avec ce qu'on est. C'est un des paradoxes. Vraiment, tout le traité de la brièveté de la vie porte sur ce décalage. Il commence en disant « la vie est courte, non pas parce qu'on est pauvre en jour, mais parce qu'on est prodigue en jour. » Et nous avons peur, non pas parce que nous allons mourir, bien sûr, mais notre problème vient du fait que nous défendons ce que nous avons au lieu de défendre ce que nous sommes, c'est-à-dire ce que nous devenons. Et nous nous laissons envahir par les autres, à qui, par ailleurs, on refuse de donner ce qui nous appartient. Or, c'est un faux calcul. Nous n'allons pas mourir riches de ce qui nous appartient dans le temps de la vie. Ça, on peut le donner. Ce qui n'est pas donné est perdu, à la limite. Bon, Sénèque était l'homme le plus riche de son temps. Il était richissime. À ma connaissance, il n'a pas donné toute sa fortune. Et d'ailleurs, dans le traité de la vie heureuse, c'est très intéressant, il n'arrête pas de dire « moi, je possède de l'argent, vous, vous êtes possédé par l'argent. Vous qui me reprochez d'en avoir, c'est vous que l'argent possède. Moi, j'en possède, mais l'argent ne me possède pas. » C'est facile à dire quand on a du blé. C'est un des reproches qu'on peut faire à Sénèque, c'est qu'il est mal placé pour le dire, si vous voulez. On pourra toujours lui faire le procès d'intention d'être l'homme riche qui, par conséquent, a les moyens d'être désintéressé. Bon, laissons cela. Ce qui est intéressant ici, c'est l'abîme qu'il y a entre le fait qu'on défende nos propriétés mais qu'on se laisse manger l'existence. Il y a dans le stoïcisme une manière d'apprendre à ne verser ni dans un excès, ni dans l'autre, si vous voulez. À ne pas être l'espèce de Christ qui donne tout ce qu'il a, et qui devient finalement celui qui se dit « trop bon, trop con, désormais c'est fini, je ne donne plus rien et je garde tout pour moi ». La lecture de Sénèque permet d'échapper à ces deux dimensions de l'existence, ou alors à ces vieillards qui meurent avant d'avoir vécu.
On ne laisse envahir ses champs par qui que ce soit. Aux plus minces différents sur les limites, on a recours aux pierres et aux armes. Mais sur sa vie, on laisse empiéter qui le veut. Bien plus. Soi-même, on introduit les usurpateurs. Vous ne trouvez personne qui veuille partager son argent avec vous. Entre combien de gens n'éparpille-t-on pas son existence? Sévères économes de nos patrimoines, s'agit-il de dépenser le temps, nous sommes prodigues à l'excès du seul bien dont il serait beau d'être avare. Volontiers prendrais-je dans la foule des vieillards le premier venu pour lui dire « Te voici arrivé au dernier période de la vie humaine. 100 ans ou plus pèsent sur ta tête. Voyons, rappelle ton passé, fais-lui rendre compte. Dis ce que t'en a dérobé un créancier, une maîtresse, un plaideur, un client, tes querelles conjugales, l'ordre à maintenir parmi tes gens, tes courses officieuses par la ville. Ajoute les maladies qui furent ton ouvrage et tout le temps que tu laissas stérile. Tu te verras plus pauvre d'années que tu n'en supputes. Repasse en ta mémoire combien de fois tu as été fixe dans tes projets, combien de jours ont eu l'emploi que tu leur destinais, quel usage tu as fait de ton être, quand ton front est demeuré calme et ton âme exempte de troubles, quelle œuvre dans un si long espace a été par toi menée à fin. Que de gens ont mis ta vie au pillage quand toi tu ne sentais pas ce que tu perdais. Combien les vaines douleurs, les folles joies, les avides calculs, les conversations décevantes ont absorbé de tes moments. Vois le peu qui t'est resté de ton lot. Tu reconnaîtras que tu meurs trop jeune.
Comme quoi les vieillards aussi peuvent mourir prématurément.
Oui, la durée de la vie ne dépend pas de la longueur de la vie. On peut être un vieillard et mourir prématurément si on a passé sa vie à la sacrifier à des gratifications narcissiques. Si on a passé sa vie à la consacrer à la préservation du moi, à la sculpture du moi. Si on a passé son temps à écrire des lettres en pensant à la publication posthume de ses correspondances, si vous voulez.
Oui, mais dans ce que cite Sénèque directement lorsqu'il dit « Dis ce que t'en as dérobé un créancier, une maîtresse, un plaideur, un client, tes querelles conjugales, etc. » C'est pas seulement des occupations narcissiques. C'est les occupations qui font le lot de notre vie à tous. Alors,
Il y a chez Sénèque, précisément, il y a chez Sénèque un éloge tout à fait paradoxal de l'oisiveté. Bien sûr, il y a l'idée que si vous passez votre vie... le travail est infâme, le travail est une torture. Bon, il y a l'idée que, si vous voulez, Sénèque ne serait pas pour les 35 heures, il serait pour les 35 minutes. Le travail a quelque chose d'aliénant. Bien. Donc ça, c'est une idée très, très claire chez Sénèque, et qui montre d'ailleurs que son texte ne se destine pas à tous. Mais appliquons-le à notre façon de vivre. Puisque finalement les stoïciens avaient pour ambition de nous simplifier l'existence, jouons pour une fois le jeu narcissique d'appliquer des conseils de philosophie ou de prendre comme autant de conseils de philosophie applicables à notre époque et à la vie, comme on dit vulgairement. Faisons l'effort donc faisons cette démarche narcissique qui consiste à prendre un texte et à voir comment il fonctionne avec notre époque. Et si on applique ce que dit Sénèque à notre époque, bon, on s'aperçoit évidemment la figure du vieillard qui meurt prématurément parce qu'il a passé sa vie à s'occuper des autres et pas de lui, est une figure hyper classique. Si on regarde avec attention ce qu'il dit, on s'aperçoit qu'au fond, il ne s'agit pas pour Sénèque de vanter l'oisiveté contre l'hyperactivité, mais de repérer au fond dans l'un et l'autre un même déni de l'existence. Un peu plus loin dans son texte, Sénèque dit « Ne crois pas que je désigne seulement ceux qui étouffent honorablement la foule de leurs solliciteurs, ou qui moins noblement se font écraser à la porte d'autrui, ni ceux que d'obséquieux devoirs arrachent de chez eux et envoient se morfondre au seuil des grands, ni ceux que l'appât d'un lucre infâme pousse aux enchères de biens confisqués, sauf à rendre gorge plus tard, etc. etc. » Il est aussi, ajoute-t-il, et ça c'est génial, des inactions fort occupées. Dans sa villa, dans son lit, dans la plus entière solitude, et bien qu'isolé de tous, plus d'un est à charge à lui-même. Il en est dont la vie ne doit pas s'appeler oisive, mais, fantastique, laborieusement désœuvrée. C'est extraordinaire. Sénèque s'en prend autant à ceux qui répondent aux solliciteurs, qui ont une vie active, ceux qui sont dans le train, qu'à ceux qui se flattent de n'être pas dans ce train vulgaire qui ne promet que la mort et qui se destine eux-mêmes à une vie d'oisiveté. Il s'en prend autant à ces deux figures. La figure hyper grégaire du type qui veut réussir dans la vie, qui croit que réussir dans la vie, c'est réussir sa vie et qui meurt comme un con. L'arriviste qui arrive. Voilà où il arrive. Première figure. Deuxième figure, le faux marginal.
le contempteur de cette société où tout le monde s'agite, celui qui met en scène sa propre sagesse, son aptitude à s'abstraire du mouvement général, celui qui maquille en désir le fait de n'être pas soumis au rythme quotidien, et qui est en vérité ce deuxième figure qui est au moins aussi grégaire que la première, au moins aussi moutonnière et inintéressante que la première. L'enjeu, c'est pas d'être oisif quand les autres, les esclaves notamment, se tuent à la tâche. L'enjeu, ça n'est pas d'être oisif, l'enjeu, c'est d'en revenir à soi.
Et c'est là qu'est la juste mesure, le bon milieu ?
Oui, c'est là qu'est la juste mesure. Il faut en revenir à soi. En revenir à soi, ça n'est pas être entre le peigne et le miroir. Ça n'est pas se regarder dans une glace. En revenir à soi, ça n'est pas revenir au moi. Non, revenir à soi, c'est très exactement ne pas dépendre de ce qui ne dépend pas de soi. C'est s'en tenir à ce sur quoi nous avons une prise. Et c'est par conséquent faire de notre vie l'écrin d'une vie plus vaste que nous. Revenir à soi, ça n'est pas se séparer du monde. C'est au contraire accepter, admettre tout ce qui nous compose et nous constitue dans le monde. Ça n'est pas tourner le dos à ses occupations. C'est une façon comme une autre de se divertir, refuser le divertissement, qu'on prie ou qu'on s'envoie en l'air, si vous voulez. Dans les deux cas, on vise le ciel, on quitte le sol. Il ne s'agit pas de ça. Le stoïcisme est plus sage que ça. Le stoïcisme, et c'est très difficile à formuler, c'est vraiment en revenir à soi. C'est faire face à la mort. Faire face à la mort, c'est-à-dire ne pas perdre sa vie à essayer d'oublier qu'elle s'achève. En revenir à soi, il dit ceci, hein, comment une vie passée loin de toute affaire ne serait-elle pas longue ? Rien n'en est aliéné ni jeté à l'un et à l'autre. Rien n'en est livré à la fortune, perdue par négligence, entamée par prodigalité. Rien n'en demeure stérile. Tout, pour ainsi dire, est en plein rapport. La vie la plus bornée aura été plus que suffisante. Aussi, que le dernier jour vienne quand il voudra, le sage n'hésitera point. Il ira au-devant de la mort d'un pas assuré. C'est ça, en revenir à soi. La belle leçon de Sénèque, elle est là. Elle est dans la capacité à repérer dans l'extrême divertissement, ou dans l'extrême oisiveté, dans l'extrême travail, dans la dévotion aux affaires publiques, comme dans le désintérêt total des modalités du divertissement, qui ont ceci d'insatisfaisant qu'elles échouent devant la mort, l'éminence de la mort. Et la nécessité dans laquelle nous nous trouvons, non pas d'oublier que nous allons mourir, mais de nous en souvenir, parce que, précisément, l'amour de la vie en dépend. L'amour de la vie repose là-dessus. Et il y a vraiment, je crois, chez Sénèque, cette ambition d'être tout à lui-même. Et c'est le contraire de l'égoïsme. Être tout à soi, c'est le contraire de l'égoïsme. L'égoïsme, c'est le combat perdu d'avance de celui qui a peur de mourir. Être tout à soi, c'est celui qui, n'ayant pas peur de mourir, fait de sa vie, c'est-à-dire de sa propre mortalité, sa plus grande chance. Merci Paola, merci à tous, merci à François Connac, à Pierre Mine à la technique et à Alice Ramon. Je chante tout le temps dans mes appartements,
comme dans une musicale comédie de Vincent Minnelli.
C'est la fin du Gai Savoir pour aujourd'hui. Lisez Sénèque, chers auditeurs, c'est simple et beau, c'est moins fort que Montaigne qui pourtant lui doit au moins le désir d'être sage.
Dans mes emmerdements, il y a toujours une étoile qui luit au milieu de la nuit.
Et puis lisez De la brièveté de la vie en le mettant en miroir avec le chapitre 20 du livre 1 des Essais. Vous verrez de près comment une pensée influence une autre. On se retrouve pour nous, hein, dimanche prochain, pour parler enfin de Proust dans le Gai Savoir, chers auditeurs. Et nous parlerons cette fois-ci des intermittences du cœur, le chapitre central, l'extrême centre de la recherche du temps perdu, le deuil de la grand-mère. C'est magnifique.
Allez, monsieur le commissaire !
Et Et puis retrouvez-nous sur Internet, où vous attendent notre site Internet, la page donc évidemment du Gai Savoir, où vous attendent téléchargement, écoute en ligne et bibliographie. Vous pouvez aussi d'ailleurs désormais nous retrouver sur Facebook. Dans l'intervalle, les nouveaux chemins de la connaissance vous parleront de Diderot toute la semaine, de 10h à 11h. 17h bientôt sur France Culture, dans quelques instants, du côté de chez soi, Ali Rebeim.